Vous écoutez RTL.
Et donc, dans ce studio avec nous, Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Votre livre, La communauté, s'annonce comme l'un des événements de cette rentrée. C'est publié chez Albin Michel, sorti hier. La communauté, pour parler d'une ville, Trappe dans les Yvelines, c'est surprenant. Pourquoi ce titre, Raphaël Baquet ?
Parce que c'est une ville qui vit dans un entre-soi. La communauté, c'est un endroit où on a un sentiment d'appartenance, et c'est exactement ça. C'était déjà une ville communiste qui vivait au milieu des villes bourgeoises et plus de droite. Aujourd'hui, c'est une ville où les musulmans sont très importants et forment une espèce de lien de solidarité entre eux. Et c'est une ville, à la fois, c'est un cocon formidable, où on peut se retrouver, qui est rassurant, et en même temps, c'est un endroit dont on a du mal à sortir, qui exerce une forme de pression sur vous-même, comme les communautés.
Ariane Chemin, ce titre, vous l'avez choisi avant ou après l'enquête ?
Après l'enquête, parce que, à vrai dire, Trappe est une ville particulière, comme Chantoul-les-Vignes, qui est organisée autour de squares, parce que c'était l'utopie communiste, c'est-à-dire qu'on disait c'est beaucoup mieux que les bars, on va faire des squares et on va faire des bars d'immeubles avec des jeux, des balançoires, etc. Et le principal square s'appelle le square de la commune, parce que tous ces squares, c'était un maire communiste depuis 70 ans, ont des noms qui pourraient être sortis d'un dictionnaire des grandes figures rouges de France.
Oui, ou des grands événements, en l'occurrence.
Voilà, donc il y a à la fois, c'est une ville, une commune, le square de la commune, une communauté au sens large, comme on l'entend aujourd'hui dans les jeux de vidéo. Vous savez, c'est un terme très à la mode, le terme de communauté. Mm-hmm. Et puis, effectivement, quand à force de venir, on nous a dit, viens, on va dans un restaurant de la communauté, ou la communauté pense que ça s'est imposé, un peu comme un titre de série, en fait.
Mais la communauté, ça renvoie évidemment au communautarisme, un mot qui aujourd'hui fait débat. C'est une réalité que vous avez rencontrée sur place, Raphaël Baquet.
C'est pas tant le communautarisme, à vrai dire, que une forme de volonté. En fait, évidemment, vous pensez tout de suite à la force des musulmans. Mmh. Il y a une idée d'influence sociétale. Et vraiment, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les musulmans veulent retrouver des liens de solidarité là-bas. Et ils emploient ce mot de communauté
eux-mêmes.
Ça, c'est
le bon côté de la communauté. Hein.
Il y a aussi des formes de pression. Hein, mmh. On l'a surtout vu en tant que femme, en fait.
Ah, ça, on va en parler. Mais peut-être tout à l'heure, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous disiez, Raphaël Baquet, on a du mal à en partir. Vous avez vu ça, vous avez des exemples du mal à en partir de cette ville.
On a du mal à en partir d'abord, tout simplement parce que c'est une ville qui est à 30 km de Paris et qu'il faut prendre le train. Il n'y a pas toujours des trains, notamment après minuit, c'est compliqué de partir de Trappe. Hein. Si vous n'avez pas de voiture, et on connaît le problème des banlieues avec le prix du permis de conduire, ça coûte très cher, il faut avoir une voiture, donc partir de Trappe, c'est pas facile. Hein. Le train, c'est l'artère principale, donc ça c'est vrai. Et quand on a eu l'impression que pour réussir, entre guillemets, il fallait en partir. C'est-à-dire que c'est incroyable que cette ville, au fond, formidablement romanesque, puisque c'est une ville qui ne compte que 30 000 habitants, vous avez des stars quasi hollywoodiennes.
Mmh. Hein, on peut les citer à nouveau. Hein,
Omar Sy habite à Los Angeles, Lafouine fait une carrière internationale, c'est un rappeur fameux qui a raconté très très bien Trappe avec beaucoup de poésie, comme Jamel Debbouze, d'ailleurs. Et au fond, d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui nous avait raconté, vous savez, en parlant d'un garçon qui était parti faire le djihad, il a un gros poste à l'EI, l'État islamique. Et au fond, c'est une réussite inversée, évidemment. Mais au fond, on a eu l'impression que pour devenir quelqu'un, parfois, il fallait quitter cette ville.
C'est ce qui est bien raconté, d'ailleurs, dans le livre, c'est que le succès des autres n'est pas toujours bien vécu par ceux qui restent, qui sont condamnés à rester, Raphaël Baquet.
Oui, c'est toujours difficile. Notamment, Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Anelka ou Lafouine ont expérimenté ce que c'est que la difficulté de devenir célèbre, de devenir riche, hein, quand on vient d'une ville très pauvre. Et effectivement, notamment Jamel Debbouze, qui a nourri beaucoup de ses sketchs avec ce qu'est la réalité de Trappe, il a eu beaucoup de difficultés, souvent, avec ceux qui étaient restés. On lui reprochait, tu te nourris de nous, tu te moques des pauvres, et toi tu es riche, tu vis ailleurs.
De ces réussites ?
Oui, c'est toujours un sentiment ambivalent, en fait. Il y a à la fois la fierté de les voir à la télévision, une réussite formidable, et puis en même temps, une difficulté à être soi-même resté.
Alors, il y a la question des femmes. Vous l'avez évoqué très brièvement, mais je voudrais qu'on s'y arrête. D'abord, vous êtes deux femmes, journalistes, parisiennes. Il fallait oser aller à Trappe et y passer du temps. Comment est-ce que vous avez été ?
Oser, je ne dirais pas ça. Je trouve qu'il y a quand même un espèce de... Pourquoi oser ? C'est à 30 km de Paris. On n'a jamais eu le moindre souci. Enfin, on a l'impression qu'on est parti...
Aucun préjugé ?
Franchement, on y a été comme on dirait n'importe où. Franchement, Trappes est une ville très accueillante. On a été reçus dans les appartements. On a été reçus souvent mieux qu'ailleurs.
Alors, je vous pose la question parce que Trappes, qui fait souvent la une de l'actualité, a fait l'objet d'un reportage sur France 2 il y a quelques mois parce que l'un des cafés était réputé interdit aux femmes. Alors, vous y êtes allé, vous ?
Voilà. Alors, justement, il y a eu ce fameux reportage sur le café de Sevran, de France 2, et il y a quasiment, en fait, le même à Trappes. Eh bien, en fait, il faut prendre le temps. D'abord, on y va... on n'a pas besoin de fixeur pour rentrer dans un café, hein. Deuxièmement, on y a toujours été très bien reçus, mais c'est vrai que c'est un café où on ne sert pas d'alcool, et c'est vrai qu'on était toujours les seules femmes. Mais le problème n'est pas du tout pour nous. Le problème, on l'a compris quand on a voulu... On s'est fait beaucoup d'amis, là-bas, quand on a voulu faire venir des filles soit dorées, soit musulmanes de tradition, soit dont on imagine qu'elles ont des parents marocains ou algériens qui, elles, nous ont dit « mais on ne peut pas venir avec vous, on ne peut pas venir avec toi ». Parce que
les règles ne sont pas les mêmes pour elles.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. La pression, nous, on ne croit pas tellement à l'islam politique parce que l'islam, c'est une somme de bagarres. On pense plutôt qu'il y a une pression sociétale. Et cette pression sociétale, le café est le meilleur endroit pour l'observer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes.
Vous avez découvert les nouveaux codes de la ville, hein. C'est votre expression.
En fait, c'est toute une série d'usages. Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour nous, effectivement, tout était très facile. Et quand vous allez à Trappes, c'est plutôt une ville, d'abord, qui a fait l'objet d'une rénovation urbaine, qui est plutôt une ville... c'est assez réussi, c'est assez agréable. Il n'y a pas des tours et des bars comme on les imagine. Mais effectivement, il y a une forme d'usage, si vous voulez, très compliqué.
Mais alors, qui fixe ces usages ? Parce que vous dites, je ne crois pas à l'islam politique, mais est-ce que quand même les musulmans, les plus fondamentalistes, n'ont pas... ces dernières années, fixer un certain nombre d'usages.
Oui, il y a un certain nombre de fondamentalistes qu'on voit, que les gens d'ailleurs appellent entre eux les barbus, hein, et qui peuvent, effectivement, lorsque vous êtes une femme et que vous avez les bras nus, par exemple, en été, c'est très difficile, c'est impossible, vous pouvez vous faire rabrouer.
Mais vous, par exemple, vous avez eu à le subir ou pas ?
Non, parce que nous, justement, nous ne sommes pas perçus comme faisant partie de la communauté. Et donc, nous, à chaque fois que nous sommes allés au café, on nous disait « bienvenue », et c'était extrêmement facile.
Il n'est pas interdit aux femmes.
Ce n'est pas interdit, c'est plutôt une forme de pression. Et pour les hommes aussi, cette pression s'exerce, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant le Ramadan, beaucoup d'hommes nous ont donné rendez-vous dans des cafés ou des restaurants hors de la ville. C'est-à-dire que c'est une forme d'usage, de pression qui est intériorisée par chacun.
Il y a une dimension historique d'ailleurs dans votre livre, hein, puisque vous revenez quand même plusieurs décennies en arrière, vous racontez cette histoire qui est aussi une histoire de l'immigration dans notre pays, et vous décrivez très bien comment l'islam s'est installé après ce qu'on peut appeler la faillite du communisme municipal. Pouvez-vous peut-être nous décrire un petit peu la manière dont cet islam fondamentaliste a peu à peu gagné du terrain à
Trappes. Alors, il n'est pas que fondamentaliste, mais c'est vrai que c'était une ville rouge, hein, qui était où le parti, comme on disait, s'occupait de vous, de la naissance, du berceau à la mort, régulait les colonies de vacances, le soutien scolaire. Et tout d'un coup, évidemment, comme partout en France, le communisme s'est effrité. Et petit à petit, au fait, cette fonction, elle a été remplie, effectivement, par la mosquée qui s'est occupée des enfants à la sortie de l'école pendant, par exemple, que les parents travaillaient, pendant qu'ils font des ménages à Paris, qu'ils rentrent très tard, effectivement. Et donc, petit à petit, effectivement, cette fonction a été remplacée par la religion et par la mosquée, mais aussi par l'église catholique, mais aussi par le club de foot, très important dans toute ville de banlieue, le club de foot. Et c'est vrai que ce qui nous a frappé aujourd'hui, c'est que, avec par exemple la fin des emplois aidés, eh bien cette fonction de soutien scolaire, elle est aujourd'hui en péril et elle n'est assurée que par des associations qui défendent de la mosquée, parce que là, le bénévolat, il est religieux, il est militant, ce qui n'est plus le cas ailleurs puisqu'il n'y a plus de communauté.
Vous diriez qu'il y a une intention derrière tout ça, c'est-à-dire que est-ce que ce que vous avez vu, ce sont des gens qui sont arrivés avec une stratégie de conquête, un agenda politique ?
Non, il y a plutôt la volonté de revenir d'établir une influence plus sociétale, si vous voulez. Il y a des gens qui ont une visée politique, on l'a bien vu dans la construction de la mosquée, par exemple, il y a un homme qui arrive, qui est proche des frères musulmans, et qui va militer pour la construction de la mosquée. Mais l'idée, le maire, à l'époque, croit qu'il veut son poste, mais pas du tout. Il n'a pas du tout l'intention de prendre la mairie. Et d'ailleurs,
il veut juste contrôler la mosquée.
Voilà. Les quelques fois où il y a eu des listes proprement communautaires, elles n'ont jamais dépassé les 10%. Donc, ce n'est pas là le but, c'est plutôt l'idée de faire revenir vers la religion les gens d'origine maghrébine, et c'est plutôt cette idée-là, rétablir une influence religieuse, plus que politique.
Reste que Trappes, et je crois, vous me démentirez, mais je crois, est la ville qui, pour le nombre d'habitants, compte le plus de départs en Syrie ces derniers...
67, on a d'ailleurs eu beaucoup de mal à établir ce chiffre, on a mis quasiment un an à l'établir, puisqu'en fait, il y a un tabou. C'est-à-dire qu'à la mairie, vous ne pouvez pas prononcer le mot djihad ou même le mot islam, d'ailleurs.
Il y a un déni.
Il y a un déni. Évidemment, il y a un déni.
De la part des autorités, de la part des habitants?
De la part de tout le monde. Quand vous ne déclarez pas les départs en Syrie, c'est un problème. Donc 67, c'est énorme. Mais c'est surtout des gens... C'est ça qui nous a intéressés dans la ville de Trappes. C'est que tout le monde se connaît. Et donc tout le monde connaît cette jeune fille de 19 ans qui a pris sa voiture avec son bébé, on le raconte, et qui part avec trois copains. Tout le monde connaît le petit gamin qui travaillait à la mairie de Trappes, qui était s'occupait des sorties scolaires et qui est parti tout d'un coup, qui disparaît. Les parents sont démunis. C'est une tragédie. Et il y a un déni parce que soit les parents, évidemment, ils ont un peu honte, ils veulent évidemment protéger leur enfant. C'est très, très compliqué. Et en fait, c'est en ça que cette ville est incroyablement romanesque. C'est-à-dire que c'est quand même pas rien, 67 personnes. Un Lunel, c'est 22, par exemple. C'est énorme. Et évidemment, ça montre qu'il y a des destins totalement différents, positif, négatif, entre un Jamel Debbouze qui devient, ou un Omar Sy qui devient le français préféré du pays, et puis ces pauvres gamins qui sont partis et qui vont mourir et qui ne reviendront jamais. Vous vous rendez compte, pour une ville, l'espèce de hiatus et de grand écart insensé.
Je voudrais, pour conclure cet entretien sur votre livre, La communauté, Raphaël Baquet, Ariane Chemin, vous poser la même question à l'une comme à l'autre. Vous êtes arrivé, j'imagine, avec des certitudes, peut-être des préjugés. Qu'est-ce qui a été bousculé par cette enquête, long mois d'enquête à Trappes?
D'abord, c'était à la fois plus facile qu'on l'imaginait, mmh, et puis plus compliqué d'appréhender dans sa complexité une ville. Ce qui était intéressant, c'est de voir ces contrastes, les deux facettes, si vous voulez, du miroir, c'est-à-dire la facette extrêmement positive avec les figures qu'on connaît et reconstituer leur parcours, et puis cette facette tragique et grave et dangereuse du départ à l'EI, et de voir qu'au fond, ces mondes s'enchevêtraient, car les uns et les autres peuvent avoir fréquenté le même collège, connaître le même café, se rencontrer. On peut savoir au fond qui est mort en Syrie. On le sait bien avant les services de renseignement, par la simple fréquentation du même square.
Ariane Chemin.
J'ai réalisé, il y a un sketch de Jamel Debbouze que j'aime beaucoup. Il dit les Français connaissent pas l'histoire de l'immigration parce que c'est TF1 qui a fait les présentations. C'est méchant.
Mais
la vérité, c'est qu'on la connaissait pas.
Ouais.
Et moi, j'ai adoré me plonger dans ces histoires individuelles et particulières d'un grand-père qui n'a jamais raconté à ses petits-enfants que oui, il est venu en France pour travailler chez Simca et qu'on l'a tamponné le bras parce qu'il y avait un recruteur qui était quasiment un négrier et qui n'a pas osé le raconter à ses petits-enfants. Et au fond, on se rend compte que c'est une histoire, une sorte de pan occulté de l'histoire de France, l'histoire de l'immigration, elle est passionnante.
C'est de l'histoire,
c'est
du journalisme,
c'est notre histoire,
effectivement, et c'est absolument passionnant. La communauté, c'est chez Albin Michel, Raphaël Baquet, Ariane Chemin. Merci beaucoup d'avoir été les invités de RTL ce matin.
Merci.